Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, l'accord USA-Mexique, dont on ne sait pas grand-chose, mais vous allez tout nous dire.
Non, on n'en sait pas grand-chose. Ce devrait être aujourd'hui le déploiement de gardes nationaux mexicains à la frontière sud avec le Guatemala. C'est une des mesures qui serait contenue dans cet accord conclu vendredi entre Mexico et Washington. Accord conclu juste à temps pour que le Mexique évite des sanctions économiques américaines. Le Mexique, déjà sous-traitant économique des États-Unis, serait-il aussi donc sous-traitant de la politique migratoire de Trump? On voit ça avec vous, Gaspard Estrada, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin. Vous êtes le directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Alors, le président mexicain évite, on pourrait dire, in extremis, une augmentation très importante des droits de douane. Et Donald Trump, lui, qui était gêné sur la construction du mur, donne à sa politique migratoire une victoire diplomatique. Qui est-ce qui a le plus de raisons d'être satisfait, selon vous?
Objectivement, aujourd'hui, Donald Trump, qui a créé cette crise, puisque c'est dans son initiative qu'il y a eu cette crise diplomatique entre le Mexique et les États-Unis, peut s'estimer le plus satisfait, même si, concrètement, cela a également permis au président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui faisait face à une opposition des milieux d'affaires par rapport à sa politique économique, de retrouver un semblant d'unité nationale vis-à-vis des États-Unis. Et c'est ce que le président mexicain a essayé d'exploiter samedi dernier lors d'un meeting à la frontière entre le Mexique et les États-Unis.
Oui, parce que je rappelle que c'est une crise qui arrive alors qu'il y a une augmentation très importante des flux migratoires, aussi bien de l'Amérique centrale vers le Mexique que du Mexique vers les États-Unis. On va y revenir juste sur l'accord. On dit, Donald Trump a dit que c'était un accord qui serait dévoilé en temps voulu. Est-ce qu'il est laissé volontairement flou du côté américain? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dans cet accord?
Oui, je partage votre point de vue. Je pense qu'il y a deux principaux points nébuleux, qui d'ailleurs correspondent aux deux principales demandes des deux pays en question. D'une part, du côté mexicain, il n'y a pas d'objectif chiffré en ce qui concerne les déportations, le nombre de migrants qui seront donc renvoyés dans leur pays d'origine, les migrants qui seront aussi hébergés dans le cadre des demandes d'asile faites par ces derniers aux États-Unis, donc qui peut être utilisé par le gouvernement mexicain, mais d'autre part, du côté américain, il n'y a pas non plus d'objectif chiffré en ce qui concerne la principale demande de Mexico, à savoir le financement par les États-Unis d'un programme de développement économique, de développement social du sud du Mexique et de l'Amérique centrale pour mettre fin justement au sous-développement de ces régions et donc éviter à l'avenir ces migrations.
Oui, puisqu'on sait que le président André Manuel López Obrador avait demandé, il avait appelé à une sorte de plan Marshall pour les États d'Amérique centrale. Ça faisait partie de son plan de redéploiement régional avec des emplois dans le sud du Mexique. Est-ce qu'on en sait un peu plus, au moins sur le déploiement de la garde nationale à la frontière? On avait parlé de 6000 hommes. Est-ce que c'est effectivement arrivé? Et en tout cas, ça au moins, ça répond à une demande des États-Unis qui était de renforcer la frontière avec le Guatemala.
Sans aucun doute, je pense que le chiffre qui a été avancé par la presse, 6000 membres de la garde nationale, qui est une nouvelle force de police, une police militarisée, qui est en cours de formation, qui a été créée il y a quelques mois, il s'agit là d'un objectif tout à fait faisable pour le gouvernement mexicain. Et paradoxalement, cela s'inscrit dans une sorte de continuité, puisque déjà, cela fait plus de 10 ans que les États-Unis demandent au Mexique de sécuriser sa frontière sud, en quelque sorte de faire le travail sale pour les États-Unis, à savoir éviter que les flux migratoires d'Amérique centrale vers les États-Unis ne soient pas stoppés à la frontière mexicano-états-unienne, mais plutôt à la frontière entre Guatemala et le Mexique, et l'on voit que cette initiative va se prolonger et va même s'amplifier sous le gouvernement de López Obrador.
Oui, alors est-ce qu'on peut dire qu'on se dirige vers une sorte de troc ou de réforme du droit d'asile, un peu comme ça avait été pensé dans certains pays européens? Là, le Mexique n'a jamais accepté ouvertement d'être pays tiers, c'est-à-dire un pays où les demandes d'asile se font obligatoirement à la place du pays d'accueil visé. Mais c'est un peu vers cela qu'on se dirige, sans le dire cependant?
Sans le dire cependant, et aussi dans un contexte où il y aura aussi de véritables tensions. Pourquoi? Parce que, d'une part, le Mexique, sous López Obrador, avait fait du droit des migrants et du pacte des migrations des pierres angulaires de sa nouvelle politique étrangère. Mais d'autre part, c'est aussi compte tenu du contexte et compte tenu des chiffres. Il y a eu une multiplication, il faut le reconnaître, du nombre de migrants d'Amérique centrale qui sont allés vers les États-Unis, avec un chiffre record en mai, avec 144 000 migrants, qui était un an auparavant, avec un chiffre qui se situait autour de 60 000. Donc il y a une augmentation de ces migrations et le Mexique va devoir gérer cela avec un peu d'effectifs et un gouvernement qui aujourd'hui vit des grandes coupes d'austérité.
Oui, et cela alors même que, je le disais, les migrants d'Amérique centrale vers le Mexique augmentent de manière très importante aussi, je crois trois fois plus aujourd'hui qu'à la même époque en 2018, l'année dernière. Donc, il y a un aspect qui n'a pas été évoqué et éclairci, c'est cet aspect de troc, je le disais, un peu commercialo-humanitaire. Donald Trump a tweeté sur un engagement du Mexique à acheter, je cite, de grandes quantités de produits agricoles. Ça n'a pas été confirmé par la Maison-Blanche, mais avec la menace de sanctions, est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un accord de ce genre, disons, rétention de migrants contre facilité commerciale?
Alors, il y a eu une réponse en off de la part du gouvernement mexicain. Les officiels mexicains refutent cet accord, ce troc commercial. Cela étant dit, on ne peut rien exclure avec Donald Trump. Il s'est déclaré satisfait il y a quelques heures sur Twitter concernant justement cet accord avec le Mexique, mais on ne peut pas exclure que demain Donald Trump reprenne son discours guerrier vis-à-vis du Mexique. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui Donald Trump va lancer sa campagne présidentielle et déjà il y a 4 ans, il avait fait du discours anti-migrant, anti-mexicain, le cœur de sa campagne présidentielle, une campagne qui va la porter à la Maison-Blanche.
Et en tout cas, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'arme commerciale a fonctionné sur le Mexique, dont 80% des exportations vont aux États-Unis, et puis 8 voitures sur 10 aussi?
Alors, l'arme commerciale a fonctionné, mais il ne faut pas oublier aussi que les deux économies sont extrêmement intégrées sur le plan économique. Et donc, de ce point de vue-là, si ces tarifs, si ces droits de douane avaient été réellement mis en œuvre, cela aurait également un impact sur l'économie américaine. Les consommateurs états-uniens auraient été également pénalisés. Et donc, il s'agit là d'une arme à double tranchant. Et donc, de ce point de vue-là, ce bluff a été de quelque sorte utile pour Donald Trump, puisque cela aurait également pu avoir des conséquences sur ses électeurs.
Et de ce point de vue-là, qui a vraiment pris l'avantage? Il y avait un peu un aspect de réédition vendredi soir, parce que quand l'accord a été lu par le ministre des Affaires étrangères mexicain à Washington.
Oui, je pense que il y a eu en quelque sorte une situation qui était à l'origine favorable aux États-Unis en ce qui concerne le rapport de force entre les deux pays, mais in fine, on ne peut pas oublier qu'il y a aussi des effets, des externalités en quelque sorte négatives pour les États-Unis si cette guerre commerciale a réellement lieu. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement mexicain a sauvé la face, mais il fait face aussi à des menaces qui peuvent se maintenir, voire se développer à l'avenir.
Oui, un gouvernement mexicain qui fait face à des menaces notamment de affaiblissement économique, pas encore la récession, mais une contraction au premier trimestre, on en reparlera. Merci beaucoup pour toutes vos explications ce matin, Gaspar Estrada, je rappelle directeur exécutif de l'OPALC, l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po. Merci, bonne journée.